Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 78e épisode, épisode numéro 77. Nous sommes toujours le 28 octobre 2022 et aujourd'hui je suis toujours accompagné de gens merveilleux tels que Pierre Zem. Bonjour Pierre, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ?
Eh ben, rebonjour. Je remets ma casquette pour ceux qui ont la vidéo. Merci. Je m'appelle Pierre Zem, je travaille autour des bases de données chez Clever et à côté, je fais du squash. Le sport.
Voilà. Ouais, voilà pour. Ouais, il fait peut-être aussi des guides squash. Hein,
de temps en temps.
Voilà. Voilà pour Pierre et également, nous sommes toujours accompagnés de Clément Nivol. Bonjour Clément, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ?
Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Clément Nivol, je suis un des cofondateurs de Clever Cloud et chez Clever je suis CRO, Chief Revenue Officer, donc je m'occupe à la fois du marketing et des ventes. Voilà.
Cool, et dernière personne, nous avons Manuel Luzzaretta. Bonjour Manuel, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ?
Et bonjour à tous, donc je m'appelle Manuel Luzzaretta, je travaille toujours chez Clever en tant que YAML Engineer.
Waouh,
la classe.
Vous pourrez aller écouter l'épisode précédent où il y a peut-être une explication sur cette dénomination, mais ne vous inquiétez pas, nous traitons les gens qui font du YAML avec le plus grand respect et la plus grande douceté.
Je me rappelle de l'époque où on disait qu'il y avait aussi des bootstrap engineers chez Clever.
Ouais.
On parlait de Twitter Bootstrap, Framework CSS.
Sur ces belles paroles, commençons l'épisode par le premier lien, qui est un lien de presse que nous avons sorti alors, du coup, hier pour nous, mais ça va faire à peu près une semaine pour vous qui nous écoutez.
Tout à fait. C'est une bonne nouvelle en fait que Clever Cloud a été ravi d'annoncer cette semaine. C'était qu'on a été sélectionné pour intégrer ce qu'on appelle le DeepNum 20, donc le DeepNum 20 de la French Tech. C'est une catégorie en fait de la French Tech pour mettre dedans tous les lauréats qui font un peu de la techno un peu avancé. Donc dans ces catégories là, bah il y a du cloud évidemment avec nous, mais il y a également il y a de l'IA, il y a du machine learning, il y a plein de choses comme ça qui sont super cool, de la robotique aussi, j'ai vu pas mal de choses. Il y a une majorité en fait de startups qui viennent de la région Île-de-France, mais il y en a quand même pas mal qui sont en région et ça fait plutôt plaisir à voir. Et nous on a été donc du coup la seule société à intégrer en fait la verticale cloud du DeepNum 20.
Voilà. Quand tu dis qu'on est, il y a beaucoup de gens qui étaient aussi en région, c'était en province.
Oui,
les provinciaux, ouais, voilà.
Provinciaux.
C'est trop dur.
Ah hein. Oh, non, t'es dur. Non, attends, faut pas dire ça. On dit plus de province, on est en région. Ouais. Et c'est trop cool. Le DeepNum 20, ça va nous permettre, en fait, d'avoir accès à des référents dans les cabinets ministériels. Si on a des sujets à voir avec eux en particulier, ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite. C'est comme si on avait un guichet unique dans ces ministères, si on doit faire avancer un sujet sur les télécommunications, par exemple, ou si on doit faire avancer un sujet sur, je sais pas moi, l'économie, ce genre de choses. Voilà, donc c'est super intéressant et on a hâte en fait de pouvoir commencer à travailler avec la French Tech. Voilà.
Bah, top. Cool.
Ah oui, c'est cool. Ouais.
Est-ce que vous avez des choses à dire sur le sujet, Pierre et Emmanuel
C'est une excellente question.
Ils n'ont pas encore vu tout ce qu'on a en préparation.
Oui, c'est sûr. Ça va leur faire drôle.
Oui.
Non, c'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal de choses qui sont en R&D, qui sont pas loin de sortir. Donc, ça fait un peu partie du truc, c'est que quand on a rempli le dossier pour le DeepNum 20, bah, justement, on a parlé des choses sur lesquelles on travaillait. Et je pense que c'est justement ce qui a fait peser la balance en notre faveur sur la sélection.
Trop cool.
Alors Arnaud, je crois que t'es mute.
Ah ouais, je suis muted. Je ne suis pas un podcasteur professionnel. Mais du coup, on va pouvoir enchaîner sur le prochain lien, qui est un lien que Pierre avait partagé, il me semble.
Oui, c'est un lien vers un tweet qui montre en fait l'évolution des classements des bases de données. Alors, il y a un site qui s'appelle DB Engines qui essaye de faire un classement des bases de données en fonction de la popularité, des téléchargements, de l'utilisation, des questions sur Stack Overflow. Enfin, ils essayent de prendre différents, de compiler une sorte de classement qui reflète plus ou moins la réalité. Et du coup, on peut regarder. Donc là, le tweet prend une fenêtre de temps sur un score qui évolue de 2013 à aujourd'hui. Et on remarque des choses assez rigolotes. On remarque que les bases de données propriétaires, donc je parle de l'Oracle, le SQL Server de Microsoft, le DB2 d'IBM sont en train de baisser. Mais SQL aussi baisse énormément. Et il y a une base de données dont le score n'arrête pas de grimper depuis 2013-2014, et ben c'est PG, PostgreSQL, qui a qui est aujourd'hui qui commence à devenir vraiment un standard, je trouve, dans le marché de la base de données.
Oui, effectivement. Et le monsieur qui fait le tweet, justement, c'est Matt Azaï, qui travaille chez MongoDB.
Ah oui.
Et curieusement, sur le graphe, il a planqué MongoDB.
Ouais.
Alors, du coup, je suis allé voir la source, et évidemment, on voit que MongoDB est juste sous PG. Et c'est un peu flat. Alors après, c'est une échelle logarithmique, donc je sais pas si ça augmente vraiment beaucoup, mais... pas tant que ça, finalement, chez Mongo. D'ailleurs, ils ont annoncé leur plateforme de passe aujourd'hui, à date d'enregistrement, le 28 octobre. Mais marrant de voir... Ouais, full pass. C'est marrant de voir toutes les bases proprio qui commencent à avoir cette légère tendance à la baisse.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Ce qui est une bonne nouvelle.
Ok, moi, je suis assez intrigué par le pic de PG en 2014. Enfin, genre, 2014... On dirait qu'il y a une espèce de... Un peu comme MySQL, tu vois, t'as une espèce de petit pic.
Oui.
Je pensais que c'était un peu flat, et après ça a commencé à... Enfin,
oui,
flat,
eu...
entre guillemets, ouais.
On voit un point d'inflexion sur la courbe.
Oui, voilà, merci.
Je sais pas à quoi c'est dû.
Il y a quelqu'un qui a dû faire un talk bien suivi.
Ouais, ou alors, ouais. Tu sais, ils ont simplifié le déploiement, ou le support de JSON. Enfin, je me souviens, il y avait eu un blog post qui montrait, en fait, la popularité de PG, et c'était lié aux fonctionnalités. Et on voyait, en fait, les points d'inflexion en fonction des releases de PG, avec des fonctionnalités qui arrivaient.
Et, très certainement.
Faut retrouver.
Le changelog de 2014 de PG.
C'est ça. Je sais même pas en quelle version c'était PG.
C'était 8.9, un truc comme ça, je pense.
Non. Si, 2014, si, ça devait être déjà même de la 9, ouais. Je crois que j'ai jamais utilisé de la 8, moi.
PostgreSQL 8. Non, je sais pas, je regarde.
Alors, first release 2014, 9.4. 9.3. Ouais. Donc la 9.0, c'était 2010.
Ah, bah, bien joué. Plus rapide que moi.
Ça remonte, ouais.
Et on est en 15 maintenant.
Qui a d'ailleurs été. Il y a 9 ans.
Et oui.
Oh, je commençais à développer.
J'étais en plein dedans. Ok, c'est cool. En vrai, je connaissais pas le site DB Engine. Donc allez voir, c'est plutôt cool. Ils ont autre chose que du ranking, parce que manifestement, ça a l'air assez complet comme site.
T'as deux sites. Qui essaye de composer et de te permettre de visualiser les bases de données. T'as DB of DB, donc la base de données des bases de données, où qui te donne vraiment un Elasticsearch sur lequel tu peux chercher les bases de données par fonctionnalité, en mode recherche ES, tu vois, où tu dis je cherche une base de données avec telle propriété, ça te permet de chercher. Et t'as DB Engine qui est très connu dans la communauté pour le coup.
Ok, cool. Nice. Merci pour les refs.
De rien.
Eh bien, sans transition, on va pouvoir partir du côté cette fois-ci de Microsoft, qui, alors, c'est un lien que j'ai mis. Je suis souvent un peu l'actualité du Windows Subsystem for Linux, donc le sous-système qui vous permet de run en fait du Linux au sein de Windows. Et là, ils ont rajouté, alors ça fait maintenant un peu plus d'un mois, ils ont rajouté le support de systemd. Donc en fait, maintenant, vous pouvez utiliser systemd comme, alors j'imagine que c'est comme init, hein, comme systemd init pour gérer vos machines sous WSL. Et du coup, ça a l'air d'être une étape de plus, entre guillemets, pour avoir un système vraiment complet, un système Linux complet, en tout cas un système récent, complet sous WSL, quoi.
Je suis toujours impressionné par l'effort de Microsoft pour inclure des fonctionnalités de Linux dans WSL. Enfin, il y a eu IO Earring qui est arrivé dans Windows. Je suis toujours impressionné par leur.
Bah là, ils veulent buter ils veulent buter les serveurs Linux tradis, mettre du Windows par-dessus et dire vous avez ouais. La possibilité de faire plusieurs VM dans WSL et voilà quoi.
C'est marrant, ouais.
Ça va peut-être marcher.
Ouais, on sait pas, hein. Mais ouais.
En fait, j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter, mais en tout cas, c'est des building blocks qui sont assez massifs. Hein. Je suis d'accord avec toi, Pierre. C'est particulièrement lourd l'effort que Microsoft met là-dedans. Il y a là-dedans, mais il y a aussi dans les efforts de virtualisation. Je sais, quand on avait parlé dans un précédent podcast, où Microsoft va full blast sur la virtualisation.
Mais en vrai, le WSL, pour moi, l'avoir pas mal utilisé dans ma précédente boîte, quand t'es dans un environnement full Windows, c'est hyper pratique. Et en vrai, j'utilise plus du tout parce que je suis enfin sur du full Linux, ce qui est plutôt cool pour bosser, ce qui est bien mieux que d'avoir un WSL. Mais quand vous n'avez pas le choix, et c'est souvent le cas dans les entreprises IT, notamment dans les ESN, vous avez un Windows, vous faites avec, et le WSL est vraiment vraiment trop trop bien. Donc c'est en vrai c'est une très bonne nouvelle pour les développeurs qui bossent sous Windows parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Mais WSL c'est ni plus ni moins qu'une VM hein, qui tourne sur Microsoft avec derrière une très grosse intégration, notamment File System. Je sais plus ce qu'il y avait, VS Code aussi, il y a une très bonne intégration avec WSL, donc on peut faire plein de trucs avec WSL, on a l'impression que c'est natif, mais c'est une VM.
Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est, ouais, c'est vrai que comme tu dis, moi-même, quand je faisais un peu de dev sous Windows en perso, c'était super pratique d'avoir du WSL à côté, quoi. Parce que le git bash, là, ça allait deux minutes.
Ouais, non, c'était
pas très puissant.
C'était pas hyper... hyper intégré.
Ok. Next. Du coup, on va vous parler... je crois que Pierre va prendre le lead sur un article d'un de nos collègues.
Oui.
Je te laisse présenter.
Bah oui. Donc, c'est Yannick qui travaille à Clever sur les parties Rust et notamment sur les parties DB serverless qu'on est en train de développer. Qui a écrit un blog post sur une librairie en Rust qui s'appelle CRD. Donc CRD, c'est sérialisation, désérialisation. Donc c'est la manière dans laquelle vous pouvez, à partir d'une structure en Rust, générer du TOML, du JSON, du YAML et tous les formats. Et donc la librairie est plutôt bien écrite et assez. On peut très facilement étendre ce qu'on veut faire. Et donc du coup le blog post balaye les deux aspects importants de CRD. Et du coup, le blog post est vraiment chouette parce qu'il décrit le fonctionnement interne de CRD et pourquoi il y a une séparation dans le monde de CRD entre tu veux par exemple sérialiser du JSON ou du YAML. En fait, tu implémentes juste le trait et tu peux utiliser CRD. Donc c'est vraiment pas mal et ça marche très très bien dans l'écosystème Rust.
Ouais, c'est vraiment une lib qui est incroyable. En plus, elle est super perf. Il y a beaucoup de benchmark, etc. Mais c'est une des librairies les plus perf par rapport à tout ce qu'elle permet de faire.
Nous, on a écrit un sérialisateur et un dessalinisateur custom pour en interne, et ça s'est, c'était implémenté des traits. Et du coup, c'est vraiment chouette d'avoir une librairie qui a bien été conçue pour être extensible nativement. C'est vraiment chouette.
Ouais, ça, en fait, dès le départ, ça a été fait un peu en mode on va faire toute la partie sérialisation, dessalinisation, mais après, c'est chacun viendra. Ajouter en fait sa propre.
C'est ça.
Son propre algorithme, entre guillemets. Quoi.
En fait, tu as une sorte de format pivot. Et après, toi, ouais. Tu t'implémentes. Par exemple, si tu veux sérialiser du JSON, bah, en fait, tu vas travailler sur ce format pivot qu'on t'expose en fait directement. Tu manipules pas ta structure à la main. En fait, tu manipules une représentation de cette structure-là. Et du coup, le fait d'avoir décorrélé. La partie à partir d'une structure, j'en génère le modèle pivot, et d'avoir de l'autre côté, à partir du pivot, je génère du YAML, du JSON, du DynamoDB. Enfin, c'est vraiment très modulaire. Voilà, je cherchais le mot. Donc, allez lire le blog post, il est en français. Et puis voilà.
Et il a un thème couleur incroyable.
Ah, et il a changé tout son thème là récemment. Il est passé sur du Zola, qui est un générateur de sites statiques en Rust.
Je trouve ça super beau.
Et un petit bouton lumière jour incroyable.
Nice. Alors, on va pouvoir passer au lien suivant où on parle de. C'est Clément qui va nous en parler, pardon, mais on parle de Elon Musk, des Tesla Engineers et de Twitter, d'ailleurs qu'il a officiellement racheté aujourd'hui.
Quel spoil!
Ah bah, c'est... On est presque au bout, t'inquiète pas. On a presque fini le podcast. Non, ce que j'ai trouvé marrant, c'est, évidemment, Elon Musk a racheté Twitter. Ça a été un peu la grosse news de cette semaine. Mais il y a un article de Bloomberg qui avait dans mon feed un peu par hasard. Et j'ai vu que le gars, Musk, il a fait venir les ingés, donc les développeurs de chez Tesla, pour entre guillemets, auditer le code. En fait, j'ai regardé ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont parler avec les product managers de chez Twitter pour savoir de quoi l'entreprise a besoin. Et j'ai trouvé ça tellement pourrave d'aller chercher des ingés qui bossent sur du logiciel de voiture, qui est globalement pas des masses communicantes et qui a strictement rien à voir avec le marché, et de les emmener directement day one, parce que c'est le premier jour. Dans les headquarters de Twitter, quasiment sans prévenir personne. Je trouvais ça tellement raide. Et c'est des trucs que j'ai vus d'ailleurs dans d'autres startups en France, où dans certains cas, et je parle pas de due deal dans le cadre de rachat, mais je parle de moments où des fois t'avais des ingés d'une autre boîte qui avaient pris des parts dans une autre boîte, ils faisaient venir les stars, entre guillemets, de la boîte qu'ils avaient racheté pour aller auditer le code des autres et leur donner leur avis. Et je trouvais ça un peu toxique, mais bon. Évidemment, Elon Musk a fait exactement la même chose et je trouvais ça terrible. Et ça m'a fait penser à un truc, c'est que je sais pas du tout ce que ça va donner, ce rachat de Twitter par Musk, mais ça m'a rappelé un autre article sur lequel j'étais tombé il y a quelques mois déjà. C'est que chez Twitter, face aux problématiques de harcèlement qu'ils avaient et d'insultes qu'ils avaient sur le réseau social, ils avaient commencé à mettre en place une team entre guillemets appelée Health, donc santé. Et cette team-là, en fait, qui était composée d'une quinzaine de chercheurs, était là pour en fait entraver tous les harcèlements, mais de façon hyper rapide, pas avec de la modération, mais avec des détections un peu avancées. Et ils travaillaient sur pas mal de fonctionnalités de Twitter justement là-dessus, et ils avaient réussi à par exemple, travailler sur une fonctionnalité qui était le unmention, dont l'objectif était de faire en sorte que, à partir du moment où tu commences à parler, tu peux faire en sorte que des gens ne te répondent pas. Mais la façon dont la health team avait travaillé, c'était c'était de façon assez méthodique pour trouver si éventuellement ces fonctionnalités de Unmention pouvaient pas finalement être toxiques dans le sens inverse espéré. Et du coup, ils n'ont pas sorti cette fonctionnalité en l'état, ils l'ont changé avant de le faire, ils n'ont juste pas sorti, je crois. Parce que, effectivement, cette thread team, en fait, avait trouvé qu'on pouvait contrecarrer des fonctionnalités de santé, entre guillemets, des fonctionnalités d'automodération de la plateforme. Mais le problème, c'est que quand Musk avait annoncé le rapchat de Twitter, c'est parti en stake immédiatement, la health team a été automatiquement démantelée. Ils sont passés de 15 personnes à 2 en 3 jours.
Oh la violence!
Parce que le discours d'Elon Musk sur je vais fixer Twitter, vous allez voir, était clairement arrêté contre ce genre de team qui était a priori, selon lui, des gens payés à rien faire. Et en fait, il a manifestement réussi à démanteler tous les espoirs de Twitter d'avoir en fait un espace un peu plus safe. D'ailleurs, en parlant d'espace, ils avaient également sorti la fonction Spaces, qui était l'équivalent de Clubhouse, mais Spaces était conçu pour défoncer Clubhouse. Donc la team Health, qui fonctionnait plutôt bien à l'époque, a juste pas eu le temps de s'occuper de Spaces, pour la simple et bonne raison qu'ils étaient en guerre contre Clubhouse et qu'il fallait absolument sortir de Spaces, et surtout pas s'occuper de tout ce qui pouvait être éventuellement harcèlement et compagnie. Donc Spaces est passé carrément au travers de ces filtres-là.
Ça c'était assez bien vu, ouais, effectivement.
Et donc, je ne sais pas si vous avez hâte, mais moi je suis curieux. Je ne dirais pas que j'ai hâte, mais je suis curieux de voir la suite du réseau social.
Il y a un côté feuilleton, j'avoue, précédemment dans Twitter.
Précédemment dans Silicon Valley.
Précédemment dans Silicon Valley, ouais, j'avoue. Ouais.
C'est un épisode de Silicon Valley, cette histoire. Moi, je trouve ça trop drôle.
J'avoue. J'avoue qu'il y a moyen de. Dommage que ça soit arrêté, mais.
Ouais. Alors, Silicon Valley, qui est une série, tu peux la décrire vite fait, parce que peut-être que tout le monde ne la connaît pas.
Ouais, c'est vrai. Silicon Valley, c'était une espèce de parodie plutôt éclairée sur ce qu'était le monde des startups à San Francisco. De la petite startup qui a une super idée tech, qui arrive pas à lever de fonds, qui arrive à lever des fonds, qui se prend le chou avec ses investisseurs. Bref, c'était un vaudeville incroyable avec des trahisons dans tous les sens. Et c'était très drôle, parce qu'il tombait assez juste sur pas mal de concepts de la Silicon Valley, qui était quand même très fort pour avancer des concepts, ou des personnages qui, eux, avaient des concepts plus ou moins éclatés. Il y avait notamment le personnage de Radio d'Internet. C'était un personnage qui avait inventé la radio sur Internet, et il ne mettait des thunes que dans des startups qui pouvaient faire de la radio sur Internet. Voilà. Et il y avait, moi, un de mes préférés, c'était un personnage qui parlait de Radical Candor, qui est une forme de management, qui est la candeur radicale. Et, c'était vers la fin de la quatrième saison, je crois.
No spoil.
Et,
No spoil.
Non, ça faisait partie des trucs qui étaient super.
Ça va. Mais c'est une très bonne série, assez marrante aussi.
Et on y retrouve tout le monde. On y retrouve les équivalents de Google, on y retrouve les équivalents de Microsoft, on y retrouve tout ça, quoi.
On se rend compte à quel point tout cet univers-là des startups est géré par les VC, en fait. Mais genre, c'est très, très... comment dire? C'est très, très verrouillé. C'est-à-dire, le fait d'avoir une bonne idée de tech ne suffit pas du tout à monter une startup qui marche. Et il y a aussi cette notion-là, et les Américains sont très forts pour ça, de lancer une boîte. C'est à perte pendant 3-4 ans mais avec des fonds énormes qui sont dilapidés pour avoir du personnel ou dans de la publicité, etc. Et ouais. L'argent vient qu'après. Et c'est pas un souci, non, absolu. Et ça, c'est...
Ouais, la rentabilité vient bien qu'après, ouais. Ouais, c'est génial. Mais après, je vous renvoie au blog d'Olivier Ezrati qui explique ça. Alors, en tout cas, il y a une dizaine d'années, il expliquait ça vachement bien. Olivier matérialisait en fait le circuit de l'argent dans la Silicon Valley et le circuit de l'argent en France. Et tu pouvais voir comment les startups en fait pouvaient se financer en France. Et tu voyais que les structures de financement n'étaient pas ouf, en tout cas à l'époque. Parce que ça s'est quand même pas mal amélioré. Et tu peux voir comment ça marche dans la Silicon Valley, où t'as tout le monde qui est impliqué, t'as à la fois les banques, les avocats, mais t'as aussi les militaires, t'as l'État, t'as les universités aussi, qui ont pas mal de thunes, etc., et qui achètent des brevets, ce genre de choses. Et aussi, une chose qui était intéressante dans les billets d'Olivier, c'est que tu voyais qu'il y avait beaucoup plus d'argent aux États-Unis que de projets à financer. Donc, globalement, c'était pas étonnant de lever un seed d'environ 1, 2 ou 3 millions de dollars sur un PowerPoint, parce qu'après tout, il y avait de l'argent.
Ok.
Bref, on va voir ce qui se passe pour Twitter, qui pour le coup a été racheté par un milliardaire.
Ce feuilleton n'est pas terminé, oui, clairement.
La suite au prochain épisode.
Exactement. Prochain lien, nous sommes sur un lien de Manuel sur les claviers.
Ah, c'est un grand sujet. ouais, en fait, c'est une conférence à Devox qui est donné en 2021, donc l'année dernière, je sais plus lequel des deux l'année dernière, mais par Alexandre Navarro, et je voulais en parler parce que c'est notamment à cette conf où je me suis beaucoup intéressé au clavier programmable, et il parle aussi beaucoup du layout qu'on utilise. Il fait notamment un retour sur l'historique de pourquoi on est en AZERTY, que c'est une dérivée du QWERTY, que c'est pas vrai que c'est pour éviter que les fiches se mélangent sur les anciennes machines à écrire, mais je vous laisserai regarder la conférence si ça vous intéresse. Mais du coup, cette conférence-là est hyper intéressante parce qu'elle pose pas mal de questions sur la manière dont on utilise nos claviers et la manière d'augmenter notre productivité à la fois par des opérations qu'on fait très très souvent et qui sont en fait finalement assez coûteuses en temps, même si c'est infime sur le moment présent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude notamment d'utiliser la souris pour faire énormément d'opérations. J'en fais d'ailleurs partie. Et ces opérations-là prennent pas mal de temps, mine de rien. Et lui, il explique que le clavier programmable, ça a changé sa vie. Donc là, lui, je crois qu'il a un keyboard IO, si je dis pas de bêtises, parce que ça permet justement d'intégrer dans son clavier des raccourcis qu'on fait tout le temps. Et c'est là-dessus que je me suis intéressé notamment au BPO. Donc il y a beaucoup de BPOettes chez Clever Cloud. C'est
BPOettes.
C'est mignon.
Je ne connaissais pas. C'est logiciel.
Ouais, donc le BPO qui est un layout qui est optimisé pour le français en fait, mais on tape très très bien en anglais avec. C'est optimisé en fait pour éviter de faire trop de mouvements avec les doigts, et la majorité des touches qu'on va taper sont finalement sur la ligne du milieu, ce qu'on appelle la home row, ce qui permet de faire assez peu de mouvements avec les doigts et du coup de taper plus vite. Bon, c'est très très compliqué de passer de l'AZERTY au BPO, hein. mais c'est très intéressant comme exercice, et ça permet réellement d'accélérer la vitesse de tapage, de tapement, je sais pas comment on dit ça, au bout d'un certain temps. Il faut quand même un certain temps.
Voilà, donc ouais, ça permet aussi de, enfin moi en tout cas c'était ce que j'en ai reçu entre guillemets, c'est aussi moins de déplacement une meilleure position de frappe, et du coup j'avais moins mal au poignet en fait, mine de rien, enfin j'avais même plus mal au poignet une fois passé au bout. Du coup il y a aussi un confort en fait qu'on gagne à taper en dépôt.
Ouais, c'est vrai. C'est un truc que j'observe souvent. C'est dans le bureau, des fois, je regarde les gens taper au clavier et je me dis, mais en fait, les gens qui font les bépoètes, comme tu dis, Manu, tu les repères de très très loin. Quelqu'un qui tape en bépo, ça se voit genre mais tout de suite, quoi. C'est-à-dire que les poignets bougent pas.
Et c'est impressionnant. Et
comme moi, ouais, c'est ouf. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils sont juste en train de faire semblant de travailler. Et en vrai, ils écrivent très vite. Faut se méfier.
Ah bah.
Quant à moi, je me fais des torsions aux doigts pour essayer de faire des copier-coller pas possible.
Voilà, ça c'est parfois le problème effectivement.
Du raccourci clavier vraiment chelou. Mais je trouve bien sa conf.
Il y a un truc qui change la vie aussi. Et on s'en rend pas forcément compte quand on a toujours tapé en dactylo. Et le fait de passer de « je tape sur mon clavier » en regardant les touches, même si on apprend finalement le layout, on l'apprend petit à petit, typiquement l'AZERTY, mais quand on n'a pas appris à taper en dactylo, en fait, inconsciemment, on va regarder un petit peu les touches. Et en fait, le fait de passer de ça à taper en dactylo, ne serait-ce que ça, sans parler de BPO, c'est quand même un confort qui est extraordinaire. Parce qu'on n'a pas à réfléchir, à regarder son clavier, à faire des allers-retours entre clavier et l'écran. Et vraiment, au niveau confort, on y gagne. Enfin, moi, je vois, c'est beaucoup plus agréable de pouvoir taper en dactylo qu'en regardant le clavier, quoi. Voilà.
Ouais, et puis c'est aussi plus agréable pour votre cou, plutôt que de faire à chaque fois tête du bas pour regarder le clavier, mouvement vers le haut pour regarder l'écran en face, etc. Il y a aussi un bienfait sur le corps, quoi.
T'écris toujours en bépo, toi, Arnaud ?
Ah, bien sûr, Arnaud, je pourrais pas revenir en arrière.
Arnaud, c'est une machine. Quand tu l'entends, quand t'es en visio avec Arnaud, tu vois, t'es là. T'es incroyable. Moi, je suis en QWERTY, mais par contre, j'ai un clavier splitté. Donc, j'ai un clavier coupé en deux, là. Et ça, par contre, c'est en termes de confort de poignet, je trouve que ça, c'est vraiment super agréable.
Parce que là, en plus, tes bras peuvent être juste droits.
Pour ceux qui sont en visio, ça donne ça, quoi, du coup. Et du coup, en fait, tu te rends compte, mais l'orientation de ton clavier, du coup, suit tes mains, en fait. T'es jamais comme si tu prends sur un clavier qui est droit, bah du coup t'as toujours les poignets tordus en fait et tu te rends pas forcément compte.
Carrément.
Ouais, j'imagine. Toi, Manu, t'as commencé à faire ton apprentissage un petit peu ou pas du tout?
En bépo?
Ouais.
Ouais, alors justement, moi, suite à cette conf, je me suis dit, je passe au clavier, j'ai tout changé.
Donc... Non.
J'ai tout changé, c'est-à-dire que je me suis lancé à acheter un clavier programmable, donc un, je vais pas faire de pub, mais c'est un clavier splitté aussi, comme Pierre. Du coup, je me suis dit que je voulais absolument taper en dactylo, donc je l'ai pris, les touches sont pas visibles, en fait, donc c'est-à-dire que c'est que des touches blanches, ce qu'on appelle. Donc j'ai pas les caractères qui sont imprimés dessus. Et c'est un programmable, ça me permet aussi le fait qu'il soit split et programmable d'avoir au niveau des pouces, en fait, 4 touches. Alors que d'habitude, toi, quand tu tapes avec ton clavier classique de laptop, en fait, t'as que la barre espace avec le pouce. Alors que le pouce est un doigt fort, te permet de faire beaucoup de choses. Et ça me permet notamment d'activer certains layouts, par exemple, quand j'ai besoin d'avoir des raccourcis, notamment sur, tu vois, pour changer de fenêtre dans mon environnement de bureau, etc.
Formater le YAML.
Je suis passé en bépo à ce moment-là et en dactylo. Mais c'était très, 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 très compliqué au tout début parce que je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Hein. Je me suis dit ça va passer. Mais c'était très, très compliqué au début de tout changer d'un coup. Mais bon,
j'imagine.
Très, très bien.
Mais ça me fait penser à un truc. Je me suis toujours dit, c'est quoi la courbe d'apprentissage pour aller vers du bépo? Et à partir de quand c'est entre guillemets rentable? C'est-à-dire le temps d'apprentissage que tu as et les quelques microsecondes que tu vas gagner sur un texte, quand est-ce que ça devient quand est-ce que ça devient intéressant? Moi, je pense que le bépo, faut l'apprendre dès le début.
Si tu raisonnes, alors c'est là déjà où on voit. Je parle beaucoup, mais c'est là où on voit que on vieillit.
Ouais,
le temps d'apprentissage est très dur. Enfin, moi, je vois là, j'ai 30 ans à peu près, et ça a été très compliqué au tout début d'intégrer les touches. Alors que je pense que plus jeune, vraiment, le cerveau est plus plastique et c'est plus facile de l'apprendre.
Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'ai essayé d'apprendre, j'ai abandonné. Je m'étais amusé sur plein de petits programmes. Si vous voulez vous mettre au bépo et que vous avez envie d'apprendre, il y a une palanquée de programmes qui vous font faire des petits exercices pour repérer les touches. Parce que le but justement c'est d'y aller en... Comment tu l'appelles déjà?
Clavaro, avec un K.
Camaro?
Clavaro,
d'accord. Ouais. Mais
juste pour rebondir ce que tu disais, c'est pas tant un gain de temps. Enfin, moi, ce que j'ai gagné vraiment, alors oui, tu gagnes un peu en vitesse de frappe, mais c'est surtout en. Ouais, ça dépend des gens aussi après, hein, c'est comme tout. Il y a des gens qui n'arrivent pas trop à en gagner. D'autres, parce qu'ils étaient déjà peut-être très rapidement, tu vois. À chaque fois,
je t'entends taper sur le clavier, moi, je suis.
Parce que mon micro est mal réglé, c'est pour ça. Non. Mais du coup, non, enfin, ce que je veux dire, c'est que t'as aussi un bienfait physique, en fait, mine
de rien. Ouais, c'est de la boxe. En fait, non, on n'a jamais vendu le bienfait physique. Hein. On a toujours dit que c'était quand même plus naturel de taper ça sur le clavier. Mais ce qui est annoncé dans la conférence, c'est que c'est clairement aussi un gain ergonomique. Et c'est ce que vous
dites. T'as les deux, hein. Carrément.
Cool.
Donc voilà, donc pour finaliser, si jamais vous vous souhaitez vous mettre à connaître par cœur votre clavier et à ne plus avoir mal à vos poignets ou à votre cou, bah essayez de changer de clavier slash de layout de clavier. Prochain lien, nous partons sur une nouvelle release de Debezium. Alors, qu'est-ce que Debezium ? Parce que moi, je ne sais pas.
Ouais, alors Debezium, c'est un outil qu'on appelle de Change Data Capture. Donc, en gros, l'idée, c'est tu as une base de données. Tu manipules cette base de données-là via tes applications et tu as peut-être envie de pouvoir répliquer ce qui se passe dans ta base de données dans un autre système. Donc ça, soit tu fais du setup de leader-follower à la volée, ou alors tu veux peut-être te dire, bah en fait, je sais pas forcément que le système cible soit dans la même technologie. Tu veux peut-être avoir une stratégie d'analytique un peu plus forte avec du data warehouse, du Snowflake, tu veux sortir cette donnée-là. Et ben en fait, le CDC, c'est Change Data Capture. C'est globalement, tu te branches à une base de données, tu fais semblant traditionnellement d'être un follower et tu viens pusher les événements dans Kafka, dans une autre PG, dans un produit SaaS d'analytique compatible, etc. Donc c'est un Debezium, c'est un outil vraiment qui te permet, en gros, ça transforme ta DB en quelque chose qui va cracher de l'événementiel sur lequel tu peux consolider, faire de l'analytique et découpler tes systèmes. Au lieu de passer toute ton architecture en microservices, ça te permet de mettre un pied dans l'événementiel et de découpler tes systèmes. Et du coup, ils ont sorti une nouvelle version, une nouvelle majeure, puisqu'on passe en 2.0, la 1.0 datait de 2019, il y a plein de d'ajouts, je vous laisserai aller voir. Le seul warning, et c'est genre le premier changement, c'est marqué, c'est Java 11.
Ah, il est temps de quitter Java 8 après.
Oui.
Tant... Et les autres, n'en parlons pas.
Mais voilà, donc c'est compatible. Faites attention quand vous faites l'upgrade, si vous êtes encore sur des vieilles versions de Java, c'est Java 11. Donc du coup, ça veut dire vous pouvez faire du ZGC, vous pouvez faire plein de choses, mais... faites attention lors de votre mise à jour.
Ok, nice. On va bien jouer à eux pour la release.
Oui, bravo à la communauté. Oui, pardon, je vous ai pas dit.
Alors du coup, c'est open source, hein, c'est pas une boîte. Ouais, c'est open source.
Ouais, c'est open source. Et par contre, c'est l'outil par défaut du marché CDC. Et donc, t'as des connecteurs pour tout. Tu peux même faire de l'Oracle, du Vitesse, du MongoDB, du MySQL. Et du coup, c'est très complet comme tool. Un des seuls désavantages, c'est que c'est écrit en Java. Donc du coup, tu te trimbalines JVM dans ces systèmes-là. Mais ça marche bien.
Ok. Restons dans les releases récentes. Et là, cette fois-ci, c'est Flink.
Ouais.
C'est bien ça.
Qu'est-ce
que Flink ?
Alors, c'est un projet de la Fondation Apache qui permet de faire du traitement en streaming. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous avez un flux d'événements qui est stocké dans un Kafka et dans un Pulsar. Vous avez envie d'appliquer un traitement streaming, donc globalement, vous récupérez du JSON, vous faites une consolidation de ce JSON-là, vous le remanipulez, vous le reflushez. Ça, c'est un traitement streaming. Et donc, Flink est une plateforme pour faire tourner des jobs en stream. Et moi, j'aime beaucoup Flink. J'ai toujours trouvé que l'API et la scalabilité des jobs qu'on peut écrire est vraiment impressionnante. Nous, on est en train d'écrire un job pour traiter des access logs et ça marche très très bien et ça scale automatiquement. En fait, tu peux créer, si par exemple t'envoies un JSON qui a une clé Toto, et ben en fait tu peux splitter ce trafic en fonction de la clé. Et du coup, ça crée automatiquement les acteurs en fonction de ta clé de split. Et chaque acteur, du coup, comme il peut avoir son état. Et ce état-là peut être persisté dans un file system distribué. Donc, en fait, tu as une notion de checkpoint, comme un checkpoint de jeu vidéo avant le boss, où tous les minutes, en fait, tous les acteurs de ton job streaming, en fait, sont checkpoint T. Et du coup, si tu as une source en Pulsar, enfin une source Kafka et une source en... Enfin, source, et ça, si les sorties de ton job sont en streaming, bah, en fait, tu peux vraiment avoir un état, redémarrer ton job dans un état. C'est plutôt
pas mal. Okay. Et du coup, ça permet vraiment de comprendre le truc, non, vraiment.
Bah, c'est comme ça que j'ai compris, hein. C'est, tu peux faire le checkpoint de jeu vidéo, c'est vraiment ça ce qui se passe, et ça marche très très bien. Et du coup, ils ont sorti une version 1.16, nouvelle release majeure, outre le fait que ça nous fixe un bug qu'on a tapé, nous, chez Clever. La release est assez cool parce qu'en fait, elle apporte un truc qui est pas mal, c'est une gateway SQL. Alors, donc, je parlais de streaming. Il y a aussi, on peut faire du mode batch dans Flink. Donc, globalement, vous voulez traiter une immense table SQL. Bah, en fait, vous pouvez lancer un job qui va manger au final toute votre table SQL. Et ils avaient un mode SQL qui vous permettait en fait d'exprimer un job en tant que requête SQL avec des groupes by et des counts et compagnie. Et donc là, la gateway, c'est une API qui permet de soumettre du SQL directement. Donc là, en fait, on est vraiment dans un cran au-dessus. On n'est plus en train de démarrer. Je crois qu'il démarrait. Tu avais une command line qui t'obligeait à spawner du SQL. Là, maintenant, on a vraiment une vraie gateway où tu peux soumettre un job SQL via API dans le cluster Flink, et je trouve ça plutôt pas mal. Okay, et plus nice. Une liste de bug fix et de support comme tous les projets de la fondation Apache. Mais tester vraiment, je trouve que Flink est un des projets les plus intéressants, je trouve, en traitement stream. Quand on fait un peu de data, l'écosystème tend vers du Spark, mais le Flink est vraiment, vraiment, je trouve, beaucoup plus intéressant technologiquement et comme plateforme pour investir du temps et de l'ingénierie dessus, pour le coup.
Ok, ça marche. Clément, Manuel, des avis sur cette magnifique release?
Non, du
release-là.
Vas-y, pardon.
Ou sur le projet. Hein.
Vas-y, Manuel.
Non, par rapport à Spark, du coup, tu disais on tourne naturellement vers Spark plutôt que cette techno-là, mais c'est quoi la raison et pourquoi tu trouves que Flink est plus quali?
Je trouve qu'il est plus... alors moi, j'ai jamais trop fait de Spark, je précise cette partie-là. Pour le coup, il y a plus de fonctionnalités de côté, notamment au niveau des checkpoints et de la reprise d'événementiel côté Spark que sur Flink. On voit en fait, il y a beaucoup de monde qui fait du Spark en fait en data et beaucoup moins en Flink. Je sais pas trop pourquoi. Moi, je sais pas trop pourquoi Spark est si trendy, pour le coup. Alors que Flink, je trouve, moi, fait vraiment beaucoup plus le job que du Spark. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est plus trendy.
Ok.
Ouais, peut-être... Il n'y avait pas une histoire que Spark était bien intégré avec Hadoop ou je sais plus quoi, non? Tu sais pas, ou rien à voir?
Si, à un moment, mais les gens qui font... Enfin, il y a de moins en moins de personnes qui font de la dope, hein. Soyons.
Ouais, ok.
Donc, écoute, je sais pas. Flink, c'est quand même en fait, la commande de. C'est ce qui est derrière la commande de produits chez Alibaba. Chez Alibaba, c'est un immense traitement stream qui, quand vous ajoutez dans un panier et compagnie, donc ça gère quand même des volumétries. On parle les commandes chez Alibaba, quoi.
Ouais, on parle de quelques petits achats, effectivement. Ouais,
genre le Black Friday, on le sent passer, tu vois.
Donc, mais comme ça, scale, il n'y a pas de problème.
Bah, c'est assez facile d'écrire un job qui va scale parce que tu dis, bah voilà, split-moi le trafic en fonction de ta clé et ça se fait naturellement. Et je suis un gros fan de Flink, voilà, je l'avoue.
C'est noté.
À vous.
C'est bien noté. Changeant complètement de registre, cette fois-ci, c'est un lien que j'avais mis quand j'avais fait quelques recherches. Alors, c'est une vidéo sur YouTube d'une personne, alors que je ne connaissais pas spécialement, qui explique en fait pourquoi est-ce que le RAID hardware, aujourd'hui, n'est pas une bonne idée. Donc, pour rappel, hein, le RAID, c'est un mécanisme de réplication de la donnée entre plusieurs disques. Pour faire très simple, vous avez plusieurs types de RAID, et vous avez en fait des implémentations hardware, là où vous avez une puce, on va dire, dédiée, enfin en fait un contrôleur RAID qui se met devant vos disques, qui s'occupe en fait de le faire pour vous, ou alors vous avez du RAID software, là où c'est plus des logiciels en fait qui émulent un disque virtuel, on va dire, et derrière en fait s'occupe de faire la partie RAID pour vos accès. Et du coup, en fait, cette personne, donc dans sa vidéo, explique un peu d'où vient le RAID hardware, pourquoi il y a eu une différence entre RAID hardware et RAID soft. Donc à la base, c'est parce que le hardware était plus perf en fait que ce qu'on pouvait avoir avec le software. Mais qu'au fur et à mesure que le software en fait est devenu de plus en plus rapide, bah le hardware a dû faire des sacrés compromis. Et en fait, apparemment, moi j'ai pas testé parce que c'est faut avoir un setup. Intéressant quand même pour tester, enfin, faut avoir des différents disques et tout, je n'ai pas ça. Mais a priori, aujourd'hui, dans la majorité des cartes RAID qui perf, vous n'avez pas en fait de check à la lecture. Donc en fait, si un disque n'a pas écrit la bonne donnée parce qu'il a bugué ou autre, et qui vous ne dit pas qu'il n'a pas écrit la bonne donnée, qu'il a un problème, bah en fait, vous pourrez très bien ne pas avoir la bonne donnée ou avoir de la donnée différente suivant le disque qui est tapé. Donc ça pose quelques problèmes. À l'écriture, ça semble encore OK. Et encore, peut-être qu'il y a des puces qui délayent un peu la partie checksum. Mais du coup, ça remet en question deux, trois choses. Et donc, pour être tout à fait honnête, le RAID soft, pareil, on ne fait pas trop de check à la lecture. C'est encore plus compliqué pour lui d'avoir un vrai état du disque. Mais voilà, pour un produit plus cher, on s'attendait à ce qu'il marche mieux. Et au final... pas du tout.
Ça me rappelle les tweets de des personnes qui développent les M1 sous Linux, qui ont découvert que l'implémentation de F-Sync sur les Mac M1 était pas si F-Sync que ça, et que du coup tu pouvais perdre de la donnée, et en fait c'était un comportement assumé côté Mac M1. Et du coup, les gens qui développent des bases de données, qui veulent que la base de données puisse être compilée sous Mac M1, en fait, ils ont trouvé une ribambelle de bugs. Parce qu'en fait, F-Sync, c'est censé, je force sync ma donnée sur mon disque. Et du coup, ça n'a pas du tout le même comportement sous Mac M1. Donc, c'est marrant.
C'est pas toujours évident, ouais, quand tu cherches à rattraper de la perf, tu fais des compromis, et voilà. Donc du coup, ce que lui disait dans sa vidéo, c'est qu'aujourd'hui le RAID, c'est peut-être quelque chose qui est pas, c'est peut-être pas le meilleur plan en fait aujourd'hui, qu'il soit soft ou hardware, mais que les nouvelles technos en fait de file system comme ZFS ou BetterFS en fait, qui directement implémentent en fait leur propre
gestion,
manière de répliquer, voilà, ce sera peut-être plus logique en fait plutôt que de faire du RAID, et peut-être qu'on ira plus vers ça à l'avenir.
C'est vrai que quand tu vois un des gros avantages de ZFS, j'en avais setup un, je me souviens, c'était, je trouvais ça vraiment chouette de me dire, je crée un sous-volume. En fait, je lui donne pas de size. Tu dis, je veux juste monter ce truc-là à l'arrache, et j'ai pas besoin de dire, ce volume-là, il va faire 20G. Enfin, il y a quand même des file systems comme BitreeFS aussi qui apportent quand même beaucoup de valeur. Du coup, ça a du sens que le RAID ou les trucs qu'on essaye de mettre en dessous perdent de la valeur au final.
C'est ça. Parce surtout qu'en fait, à un niveau du file system, tu peux avoir, par exemple, dans BetterFS, tu as une histoire de, alors pas de changelog, mais de wall,
de wall,
entre
ouais.
guillemets.
Ah, c'est un wall.
En fait, ouais. Du coup, tu peux rejouer, enfin, t'as un peu la puissance que ce que les bases de données ont aujourd'hui en fait, pour pas perdre ta donnée au sein de ton file system plutôt qu'au sein d'une puce en fait.
C'est ça. Alors, juste un truc, c'est peut-être définir ce que c'est le wall, c'est le write ahead log, c'est ça?
Ouais, vas-y Pierre, je te sens chaud.
Pierre, ouais, le wall, c'est le write ahead log. L'idée, c'est que écrire sur le disque des données, c'est souvent coûteux. Du coup, un système Linux, en fait, ou une base de données génère des modifications en RAM, mais elle va pas forcément persister tout de suite la modification. Et du coup, le wall, l'idée, c'est de se dire, bah, en fait, on va garder toutes les écritures et toutes les modifications qu'on a fait en RAM. On va venir flusher ça, d'une façon assez spécifique sur le disque pour pouvoir faire de la reprise sur incident. Donc, j'écris 1, 2, 3 sur dans un fichier. C'est pas forcément flusher directement par le kernel parce que il a sa propre tambouille. Par contre, le fait que tu as écrit 1, 2, 3, c'est écrit dans un wall qui lui a été persisté via en faisant un code fsync généralement. Et du coup, on voit ces mécanismes là apparaître dans les systèmes de fichiers. ZFS, Bitrefs et compagnie.
Mais je crois que EXT4 aussi a un journal, il me semble.
Oui.
Si je dis pas de conneries.
T'as un journal, ouais. C'est différents noms, mais c'est la même idée.
Oui, c'est la même chose. Ouais.
C'est la même idée.
La feature s'appelle comme ça. Bah,
c'est ça.
Enfin, voilà, du coup, après cette vidéo, c'était un peu une révélation pour ma part de dire, ah d'accord, c'est comme ça, c'est super, donc voilà, si jamais vous faites du RAID, je vous invite à la regarder, c'est vachement intéressant. Et on rappelle, le RAID n'est pas un backup, voilà.
Le petit, le
il faut petit le préciser.
Cool.
Manuel, t'as quelque chose à remonter sur le RAID?
Bah, le RAID et moi, on n'est pas très copains, donc...
Merde. Ah oui, c'est vrai.
Alors moi j'avoue qu'à chaque fois que je sais t'apparaître, je me foire tout le temps. Genre à chaque fois.
Pas de commentaire.
Ça c'est vraiment un truc, ça m'insupporte. Je le rate toujours à la main. Enfin je le rate toujours.
La suite.
la suite. Nous sommes sur. Bah du coup nous arrivons en fait sur le dernier lien de l'épisode, sur un outil de l'épisode. Enfin plus ou moins un outil, c'est un peu une révélation aussi, je crois que t'as eu Manuel sur. Quand tu es en train de tweaker un peu tes fonts ou autre sur Linux.
Ouais, tout à fait. Alors j'aime bien avoir des fonts unifiées entre les différents softs que j'utilise, parce que c'est plutôt cool, c'est plutôt agréable. Et il y a la fonte de JetBrains, je crois, qui est super cool, qui est une fonte monospace. Et je me suis dit que je voulais mettre cette fonte-là sur... l'ensemble des softs que j'utilise, VS Code, à la Critique, etc., ou dans mon environnement de bureau là sur Sway. Et en fait, ce que je faisais d'habitude, c'est que je copiais la fonte, donc vous faites un fclist, donc pour fonte config, vous allez récupérer le nom de la fonte et vous la collez partout. Et j'ai trouvé un truc qui est ouf et que en même temps j'imagine beaucoup de Linuxiens connaissent, c'est qu'en fait on peut piloter fond de config donc à travers un fichier de conf qui est dans votre .config, dans lequel on peut dire bah, je veux que la fonte de ma famille monospace quand je demande du monospace en fait je vais préférer afficher là dans mon cas JetBrains. Donc ça évite quoi? Ça évite de d'ouvrir tous ces softs, toutes les configs, toutes les .files de vos différents softs et d'aller copier-coller la fonte quand vous avez envie de la modifier. Et ce qui est hyper bien aussi, c'est qu'en fait vous pouvez les accumuler. C'est-à-dire que typiquement JetBrains mono ne supporte pas les emotes ou alors certaines mais vraiment les plus classiques ou les emojis. Et donc c'est possible pour pouvoir avoir le support à la fois d'une fonte qui est agréable à lire et en même temps des emojis, de pouvoir les enchaîner, ce qui fait que si un caractère est pas supporté par une fonte, il va récupérer celle derrière. Il y a aussi Font Awesome par exemple qui est très bien pour ça. Et du coup, ça vous permet en définissant une famille, donc là monospace, de pouvoir taper à chaque fois sur des fontes que vous avez redéfinies, et si vous voulez changer de fonte, vous avez juste à changer un seul endroit. Voilà, donc c'était une petite révélation parce qu'à chaque fois je m'embêtais à aller changer ça partout dans toutes mes configs. Et en fait, on peut le faire qu'à un seul endroit et c'est très bien. Et on peut aussi mettre des fonts qui supportent les emojis en plus dedans.
Non, on voilà. est toujours content de voir un petit smiley qui rigole dans ses logs.
Je sais pas, les Nuxiens, vous connaissiez ça, ce petit tweak?
Moi, je ne connaissais pas. Je crois que je l'ai su à un moment peut-être parce que j'avais fait des tests à une époque avec des fonts et tout, mais enfin, c'est un talent d'Achille chez moi la fonte. Hein, c'est vraiment dur.
Ouais, c'est assez complexe. Mais et du coup, le lien juste pour décrire, le lien pour décrire, c'est juste une issue dans la critique qui est un super émulateur de terminal dans lequel quelqu'un demande comment on fait pour supporter les emojis parce qu'il n'arrivait pas à afficher les emojis dans son terminal. Donc si vous êtes dans ce cas-là, regardez cette issue et vous pourrez corriger.
Nice. Bah merci, ça a dû te prendre un peu de temps pour la trouver.
Ouais, j'ai un peu galéré. Ouais,
ça marche, et bah du coup, nous voici rendus à la fin de l'épisode. Et on va pouvoir s'attaquer à la musique. Alors, normalement le préposé OD Clément Nivol qui va pouvoir le lancer.
Alors, c'est parti. Et on est à 9. Donc, techniquement, c'est Manu.
Ah, ok. alors, du coup, moi, c'est un peu comme... c'est un peu comme Arnaud à l'épisode précédent. Généralement, j'aime bien gratter des sons plutôt électro qui me permettent de bosser en ayant de la musique, en ayant une certaine ambiance musicale. Et là, c'est le dernier son que j'ai ajouté à ma playlist... qui est plutôt de l'électro assez douce au début, un peu plus grasse après. Enfin, je vous laisse découvrir, c'est assez agréable, c'est ce que j'aime bien écouter quand je bosse aussi. Voilà. Et ça s'appelle, je ne sais même plus, Silent Step.
Cool.
Super. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné pour cette reprise de podcast.
Merci.
Et du coup, on vous dit, chers auditeurs, auditrices, à dans une semaine, espérons-le, pour un prochain épisode.
Mais oui, on va y arriver.
C'est ça.
Merci beaucoup.
À plus.
Salut. Au revoir.